Léon Blum, Souvenir sur l'affaire, chapitre 1. Quelques semaines après le procès de Rennes et la grâce, Félix Vallotton fit paraître un dessin que je vois encore. Le capitaine Dreyfus, grave et noir, était assis de face sur une chaise. Il faisait sauter sur ses genoux deux marmots joyeux, mais il détournait les yeux quand le plus petit lui demandait « Père, une histoire !» Une histoire. Le capitaine Dreyfus eût été incapable alors de conter la sienne. Il ne l'avait pas comprise. Il ne la savait pas. Il vient de mourir après 30 ans d'effacement volontaire, lui qui avait rempli le monde de son nom et, peut-être, l'avait-il oublié. C'était un homme modeste, à l'esprit sérieux, qui n'avait rien du héros qu'un muet et inébranlable courage. Comme il était parfaitement simple, qu'il manquait de prestige, de panache et d'éloquence, il n'avait pas trouvé devant ses juges le cri de l'innocence. Dans les lettres qu'il écrivait à sa femme pendant ces 5 années d'île du diable, on ne surprend pas le moindre mouvement de révolte. Le sens de la hiérarchie était si puissant en lui qu'il ne se fiait qu'à ses chefs pour reconnaître et réparer l'erreur terrible. Cette confiance était son soutien. Il avait toujours obéi scrupuleusement à toutes les consignes. Il avait gardé un secret stoïque, même vis-à-vis de sa femme et de son frère Mathieu, au cours de l'instruction conduite par Dupaty de Clam. Sa grandeur militaire était faite de servitude. Vraiment, il n'avait nulle affinité avec son affaire, nulle vocation pour le rôle dont le chargeait un caprice de l'histoire. S'il n'avait pas été Dreyfus, aurait-il même été Dreyfusard? L'histoire qu'il n'a pas contée, je n'ai pas dessein de la refaire à mon tour, bien que l'ignorance et l'oubli l'aient peu à peu enveloppée. Les jeunes gens, et même les hommes d'aujourd'hui, sont comme Alfred Dreyfus à son retour de l'île du diable. Ils ne connaissent pas l'affaire, et surtout, ils ne la comprennent pas. Oh, je sais fort bien que, pour mon compte, j'ai vainement essayé d'y intéresser mon fils. J'essayais de lui faire sentir ce que l'affaire avait été pour moi, comme pour les autres hommes de mon âge. Mes paroles n'étaient pour lui que des mots. Les générations qui nous ont suivis ne peuvent plus se rendre compte que pendant 2 interminables années, entre le début de la campagne de révision et la grâce, la vie s'est trouvée comme suspendue, que tout convergeait vers une question unique, que dans les sentiments intimes et dans les rapports interhumains, tout était interrompu, bouleversé, reclassé. On était Dreyfusard ou on ne l'était pas. Depuis que j'avais quitté l'école normale, j'étais brouillé avec Paul Dupuis et Victor Bérard. Nous sommes tombés un matin dans les bras les uns des autres en apprenant que nous combattions sous le même signe. J'ai cessé de voir, pendant de longs mois, un camarade aussi familier que Philippe Berthelot, parce qu'il avait commenté sur un ton de sarcasme le discours de Scheurer-Kestner au Sénat. Sur tous les partis politiques, l'affaire exerçait un effet de discrimination ou de catalyse. Il se décomposait et se reformait avec des éléments transposés. Des liens de connivence secrète et par conséquent de sympathie se nouaient par-delà les frontières. Un explorateur des régions antarctiques, après un hivernage sur la banquise, posait cette première question à l'expédition de secours. Dreyfus est-il libre? L'affaire fut une crise humaine, moins étendue et moins longtemps prolongée mais aussi violente que la Révolution française ou que la Grande Guerre. Quel est le signe le moins incertain de ces crises de passion collective? C'est, à mon sens, ce que j'appellerais la dépréciation de la valeur vitale. Suivant les périodes, les états, les moments, les hommes attachent plus ou moins de prix à la vie, à la leur propre comme à celle des autres. Que ce soit un symptôme ou un effet, on reconnaît les grandes secousses de type révolutionnaire au fait que le cours de la vie humaine tombe au plus bas. On meurt encore plus facilement qu'on ne tue. Si l'époque de la terreur n'a laissé ni à ses témoins, ni même à ses victimes, l'impression d'épouvante que l'on suppose, la raison profonde en est là. Le prix de la vie était nul, et l'on ne comprend plus rien aux événements ou aux personnages si on se place pour les juger dans une période tranquille, normale, dans un temps où la vie humaine vaut très cher. Quand j'évoque la phase aiguë de l'affaire, ce souvenir est le plus puissant de ceux qui affluent. Ni pour mes amis, ni pour moi, la vie ne comptait. Nous nous serions sacrifiés sans la moindre hésitation et surtout sans le moindre effort, à ce que nous tenions pour la vérité et pour la justice. Et sans doute, quoique plus malaisément, aurions-nous sacrifié les hommes qui barraient la route à la justice et à la vérité. Ce sont des impressions de cet ordre, c'est cette altération passionnée de l'existence que je voudrais, par-delà les années, rendre aujourd'hui sensible ou intelligible. Le seul moyen est de m'abandonner à ma mémoire, de noter presque passivement la confidence rétrospective que je me ferai à moi-même. Je ne retourne pas aux sources. Je ne cherche pas dans les textes des repères ou des vérifications. J'aime mieux risquer de ci, de là, quelque erreur de fait qui se corrigera d'elle-même, plutôt que de tarir et de dessécher. Hélas, en essayant cette conjuration évocatrice du passé, je vais m'entourer d'un cortège d'ombres. Jaurès et Clémenceau sont morts, Bernard Lazare et Lucien R sont morts, et Pressensé, et Picard, et Scherer-Kessner, et Zola, et France, et Mirbeau, et Anna de Noailles, et tous les autres. Dans le petit groupe des initiateurs et des protagonistes, qui donc survit encore? Lucien Lévy-Brulle, qui fut le lien entre Mathieu Dreyfus et Jaurès, Marcel Prévost, dont le rôle discret fut décisif, puisque c'est par son entremise que Zola fut mis en rapport avec Le Blois, l'ami et le confident du colonel Picard. Je commets peut-être quelques grossières omissions. S'il en est ainsi, que le camarade oublié me pardonne. J'avais passé les vacances de 1897 à la campagne, très près de Paris. Pendant le mois de septembre, Lucien R., enfourchant sa bicyclette, venait me voir à peu près chaque après-midi. Il me dit un jour, à brûle-pourpoint, « Savez-vous que Dreyfus est innocent ?»« Dreyfus ? Qui cela, Dreyfus ?» Il y avait tantôt 3 ans. Que le capitaine Dreyfus avait été arrêté, condamné, dégradé, déporté. Le drame avait violemment secoué l'opinion pendant quelques semaines, mais très vite, il avait été oublié, absorbé, aboli. Personne n'avait plus pensé à Dreyfus dans l'intervalle, et, pour reconstituer les événements qu'évoquait son nom, il fallait un effort de mémoire déjà difficile. On finissait par se souvenir qu'un capitaine d'artillerie avait été accusé de haute trahison et que la pièce sur laquelle se fondait l'accusation était le bordereau des pièces livrées par lui à l'Allemagne. Il n'y avait aucune raison de supposer que la procédure eût été affectée d'un vice quelconque, ni surtout que les juges se fussent prononcés sans preuve convaincante. Les 7 juges avaient été unanimes. Au reste, le soir de la dégradation militaire, en regagnant son cachot du cherche-midi, Dreyfus avait avoué son crime. Ce n'est pas le soir, en regagnant son cachot du cherche-midi, mais le matin, en le quittant, que Dreyfus, suivant la version officielle, avait fait l'aveu de son crime à un officier de la garde républicaine, le capitaine Lebrun Renaud. Voilà ce qui s'était passé en décembre 1994, voilà ce que me répondait ma mémoire interrogée, et depuis lors, rien n'était venu troubler ma pensée ni ma conscience. Si pourtant, en fouillant plus attentivement dans mes souvenirs, j'avais entendu parler de Dreyfus depuis décembre 1894. J'approchais alors de fort près un homme dont la mémoire m'est restée très chère, Michel Bréal. C'était bien par lui que j'avais entendu tenir des propos qui se résumaient à peu près ainsi. Je n'ai pas à croire ou à ne pas croire à l'innocence de Dreyfus, mais je ne crois pas à sa culpabilité, parce que la vie m'a instruit à ne croire que ce que je comprends. Or, je ne comprends pas le crime de Dreyfus, et je ne comprends pas parce que, jusqu'à présent, on ne m'a fourni aucun mobile intelligible. J'écarte l'hypothèse d'une action humaine à laquelle il m'est impossible d'assigner des raisons. C'est vrai, le père Bréal avait dit cela devant moi. Par qui encore avais-je entendu prononcer le nom de Dreyfus? Ah oui, par Bernard Lazare, un matin, à la Revue Blanche, dans le bureau de Lucien Mulfeld. Bernard Lazare avait amené quelqu'un avec lui, quelqu'un qui n'était autre que Forzinetti, l'ancien commandant du cherche-midi de la prison militaire où Dreyfus avait été écroué. Je ne sais pas ce que le nom de Bernard Lazare signifie encore pour les jeunes gens et les hommes d'aujourd'hui, mais il tenait une place notable dans la génération littéraire qui avait immédiatement précédé la mienne. Il en était le critique, comme M. Henri de Régnier et Viollet-Griffin en étaient les poètes, comme Paul Adam en était l'essayiste et le romancier. Avec ce groupe d'amis, il avait fondé une petite revue qu'il dirigeait et qui se nommait « Les entretiens politiques et littéraires ». Il commençait à percer dans la grande presse et dans le grand public. Tel est le Bernard Lazare que nous connaissions alors, mais nous ne le connaissions pas tout entier. Il y avait en lui un juif de la grande race, de la race prophétique, de la race qui dit « injuste » là où d'autres ont dit « un saint ». Comment était née dans son esprit la notion première de l'erreur, l'instinct premier de l'innocence? Je ne l'ai jamais su exactement. Peut-être par contact avec Mathieu Dreyfus, le frère inébranlable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était déjà convaincu de l'innocence et qu'il s'était voué à la réparation de l'erreur. Bernard Lazare fut le premier des Dreyfusards, celui dont sont issus presque tous les autres. Il était entré en rapport avec le commandant Forzinetti, mis à la retraite depuis 1894, et il avait acquis de lui la certitude qu'en dépit de la constatation prétendue de l'aveu, Dreyfus, de retour à la prison, n'avait cessé de se jurer innocent. Ce bordereau que les experts officiels avaient attribué à Dreyfus et que l'état-major avait cru habile de faire publier un jour en fac-similé. il l'avait soumis à des contre-experts dont les conclusions avaient été diamétralement opposées. Avec une abnégation admirable, sans se soucier des rebuffades, ni même des soupçons, il cherchait partout des appuis. Il allait colporter de maison en maison le témoignage de Forzinetti et le rapport des contre-experts. Il avait rédigé et signé une petite brochure qu'on criait sur le boulevard. Je rappelle cette brochure, chemin faisant, parce qu'elle fut le point de départ d'une des deux filières qui conduisirent au vrai coupable. Le remisier Castro, ou De Castro, attendant son omnibus, un jour de pluie, au bureau-refuge du boulevard des Italiens, l'acheta par désœuvrement à un camelot et, sur le fac-similé du bordereau qui y était reproduit, lut l'écriture familière d'Esterhazy. La visite matinale de Bernard Lazare aurait donc dû me troubler. Sa conviction aurait dû pénétrer en moi. Cependant, je l'avais entendu avec un préjugé incrédule, comme tant d'autres, sans ouvrir vraiment mon attention. Peut-être même l'avions-nous raillé, Mulfeld et moi, après qu'il avait quitté le petit bureau de la rue Lafitte. Je n'étais pas fier de ce souvenir, qui ne remontait pas très loin. Mais j'en retrouvais un autre, plus récent encore, et que je relate ici parce que l'anecdote traitée par un homme du métier serait comique. J'habitais, à Paris, le rez-de-chaussée d'une maison de la rue du Luxembourg, dont un haut dignitaire du corps des mines, nommé, je crois bien, M. Lander, occupait un étage. M. Lander recevait régulièrement à dîner et Arthur Fontaine, le fondateur de la législation internationale du travail, qui lui aussi appartenait par son origine au corps des mines, était un des hôtes assidus de la famille. Parfois, en descendant de chez M. Lander, il sonnait à ma porte. Il m'avait ainsi conté, riant encore, la scène à laquelle il venait d'assister. À table, pour animer la conversation, un officier avait dit à ses voisins « Vous savez que je suis chef d'un des bureaux de l'état-major. Figurez-vous que nous sommes sur la piste d'une très sérieuse histoire. Un syndicat juif, syndicat international, disposant de ressources illimitées, s'est constitué pour délivrer le traître Dreyfus. Nous sommes avertis. Nous savons même le nom du faux coupable qu'on veut lui substituer. » L'affaire était à tel point oubliée qu'un des convives, camarade et ami d'Arthur Fontaine, interrompit l'officier. « Dreyfus ? Je me rappelle vaguement le nom, mais je ne me rappelle plus rien de l'histoire. « Comment ? Voyons, vous ne vous souvenez pas ?» Et l'officier, avec élégance et précision, entama le récit de l'affaire. L'ami d'Arthur Fontaine écoutait avec une application parfaite. Quand la narration fut achevée, il déclara du ton le plus doux et le plus posé « Mais, mon colonel, si les choses se sont passées comme vous venez de nous le raconter, Dreyfus est innocent. » L'officier s'exclama avec colère « Comment ? Vous êtes donc d'accord avec ces scélérats ? Mais, Dreyfus !» L'ami d'Arthur Fontaine répétait cependant, avec une obstination de plus en plus douce, « Pardon, j'avais oublié jusqu'au nom de Dreyfus. Je ne sais de son histoire que ce que vous m'en avez appris vous-même. Je ne juge que sur les données que vous m'avez vous-même fournies. Si elles sont exactes, il ne peut y avoir de doute pour aucune personne de bon sens. » Dreyfus est innocent. Le dialogue tournait mal, et le maître de la maison eut toutes les peines du monde à l'interrompre. L'officier s'appelait le colonel Roger. Je ne nommerai pas son interlocuteur, qui est encore plein de vie et qui se reconnaîtra s'il me lit. Michel Bréal était juif, Bernard Lazare était juif, le colonel Roger dénonçait d'avance un complot juif. Il ne faudrait pas du tout croire, cependant, que dans les milieux juifs que je fréquentais alors, milieux de bourgeois moyens, de jeunes littérateurs, de fonctionnaires, il existât la moindre prédisposition au dreyfusisme. À l'époque où je me place, on n'eût rien constaté de pareil. En thèse générale, les Juifs avaient accepté la condamnation de Dreyfus comme définitive et comme juste. Ils ne parlaient pas de l'affaire entre eux. Ils fuyaient le sujet, bien loin de le soulever. Un grand malheur était tombé sur Israël. On le subissait sans mot dire, en attendant que le temps et le silence en effacent les effets. La masse juive, accueillit même avec beaucoup de circonspection et de méfiance les débuts de la campagne de révision. Le sentiment dominant se traduisait par une formule comme celle-ci. C'est quelque chose dont les Juifs ne doivent pas se mêler. Dans ce sentiment complexe, tous les éléments n'étaient pas d'égale qualité. Il y avait, certes, du patriotisme et même un patriotisme ombrageux, le respect de l'armée, la confiance dans ses chefs, une répugnance à les considérer comme partiaux ou comme faillibles. Mais il y avait aussi une sorte de prudence égoïste et timorée qu'on pourrait qualifier de mots plus sévères. Les Juifs ne voulaient pas qu'on pût croire qu'il défendait Dreyfus parce que Dreyfus était juif. Il ne voulait pas qu'on pût imputer leur attitude à une distinction ou à une solidarité de race. Il ne voulait pas, surtout, en se portant à la défense d'un autre juif, fournir un aliment à la passion antisémite qui sévissait alors avec une intensité très appréciable. L'arrestation, la condamnation avait déjà nui aux Juifs. Il ne fallait pas que la campagne de révision les compromît davantage. Les Juifs, de l'âge de Dreyfus, ceux qui appartenaient à la même couche sociale, qui, comme lui, ayant franchi des concours difficiles, s'étaient introduits dans le cadre des officiers d'état-major ou dans les corps d'administration civile les plus recherchés, s'exaspéraient à l'idée qu'un préjugé hostile vint borner leur carrière irréprochable. Après avoir excommunié le traître, il répudia le zèle gênant de ses avocats. Tout compte fait, pour reprendre une vue exacte de l'état d'esprit que j'essaie de décrire, il n'y a qu'à regarder aujourd'hui autour de soi. Les Juifs riches, les Juifs de moyenne bourgeoisie, les Juifs fonctionnaires avaient peur de la lutte engagée pour Dreyfus, exactement comme ils ont peur aujourd'hui de la lutte engagée contre le fascisme. Ils ne songeaient qu'à se terrer et à se cacher. Ils s'imaginaient que la passion antisémite serait détournée par leur neutralité pusillanime. Ils maudissaient secrètement ceux d'entre eux qui, en s'exposant, les livraient à l'adversité séculaire. Ils ne comprenaient pas mieux qu'ils ne comprennent aujourd'hui qu'aucune précaution, aucune simagrée ne tromperait l'adversaire et qu'ils restaient les victimes aussitôt offertes de l'anti-dreyfusisme ou du fascisme triomphant. C'est pourquoi, en septembre 1897, quand Lucien R. venait me voir l'après-midi à la campagne, un juif moyen tel que je l'étais, inconsciemment soumis à l'équilibre de la famille et des fréquentations ordinaires, n'avait pas de vocation plus marqué que tout autre, à recevoir la grâce dreyfusarde. En revanche, la parole de l'apôtre était celle qui pouvait agir le plus impérieusement sur moi. J'avais connu R, 7 ans auparavant, à la place où il a volontairement enfermé sa vie entière, c'est-à-dire à la bibliothèque de l'école normale. Au cours des toutes dernières années, une intimité familière, quotidienne, s'était formée entre nous. Mais dans l'ascendant qu'il exerçait sur moi, il y avait quelque chose que l'amitié ne suffisait pas à expliquer et que je voudrais rendre sensible à ceux qui ne l'ont pas connu. En aidant à l'intelligence de son personnage, j'apporterai d'ailleurs une contribution plus précieuse qu'on ne croit à l'histoire de notre temps. C'est R qui avait amené Jaurès au socialisme. Ou, pour parler plus exactement, c'est R qui avait amené Jaurès à prendre claire conscience de ce qu'il était socialiste. C'est lui qui, avec Lucien Lévy-Brulle, venait de convaincre Jaurès de l'innocence de Dreyfus. C'est lui qui allait susciter et diriger le mouvement des intellectuels quittant la paix du laboratoire ou du cabinet pour se jeter dans la bataille dreyfusiste. C'est lui qui allait fonder, avec Charles Péguy, cette librairie Bellay, où toute la jeunesse socialiste et dreyfusarde trouva son centre de ralliement et d'action. C'est lui qui, pendant 30 ans encore, jusqu'à son dernier jour, devait rester pour l'élite universitaire le confesseur, le convertisseur, le guide et, pour tant d'hommes publics, le confident, le directeur de conscience et de pensée. La force de R, sa force incroyable est vraiment unique, car je ne l'ai jamais constatée au même degré chez personne, tenait essentiellement à ceci. En lui, la conviction devenait évidence. La vérité était conçue par lui avec une puissance si complète, si tranquille, qu'elle se communiquait sans effort et comme de plein pied à son interlocuteur. La possibilité même d'une discussion semblait écartée. De tout son être émanait cette assurance. Oui, je pense ceci, je crois cela. Il est absolument impossible à un individu d'une certaine qualité de ne pas le penser ou de ne pas le croire. Et l'on s'apercevait qu'en effet, on pensait, on croyait comme lui. On avait même l'impression, ou l'illusion, d'avoir toujours porté secrètement cette même pensée ou cette même croyance. On ne savait plus s'il vous avait persuadé ou s'il vous avait révélé à vous-même. Pour prendre le terme dans son acception familière, nul homme ne possédait si naturellement un autre homme. Une emprise physique ajoutait à cet ascendant de raison, car il avait une taille de bon géant, un crâne démesuré, une parole sans dureté et même tendre, mais qui dénudait tout, bousculait tout, un regard où l'autorité se mêlait de sollicitude. Tel était l'homme qui m'avait affirmé à brûle-pourpoint, pendant que nous marchions ensemble dans une allée de jardin, « Dreyfus est innocent », et qui, me voyant saisi et déjà presque conquis par sa voix, m'énonçait alors l'un après l'autre les faits, les arguments, les preuves. Le bagage dreyfusard, si je puis dire, se composait alors de 2 apports, distincts par leur origine, mais qui venaient de se confondre. il s'était formé par la conjonction du travail de Bernard Lazare et des découvertes du colonel Picard. De Bernard Lazare venait la destruction de la légende de l'aveu, la découverte de l'identité entre l'écriture du bordereau et celle d'Esterhazy. De Picard venaient les informations positives sur le contenu du dossier de l'accusation et du dossier secret, et surtout la révélation du document qui portait contre Esterhazy l'imputation décisive, le petit bleu de l'attaché militaire Schwarzkoppen. Chef du deuxième bureau de l'état-major, Picard avait tenu entre ses mains le petit bleu. Il avait dénoncé à ses chefs l'erreur terrible. On lui avait répondu par la disgrâce et la déportation. Mais avant de partir pour la garnison perdue de Tunisie, d'où il n'était pas sûr de revenir vivant, il avait laissé à un compagnon d'enfance, l'avocat Leblois, ses confidences presque posthumes. Leblois s'était confié à son tour au sénateur Scherer-Kestner. Scherer-Kestner avait informé Mathieu Dreyfus. Or, Lucien R. avait recueilli directement la source Bernard Lazare et, par les bibrules, la source Picard-Mathieu Dreyfus. Le système des preuves s'était ajusté, complété dans son esprit. La certitude était si claire à ses yeux qu'il ne concevait pas qu'elle pût ne pas être partagée. Et je la partageais, en effet. Jaurès n'éprouvait pas plus de doute que lui. Il avait déjà convaincu, ou se proposait de convaincre dès son retour à Paris, les amis qui formaient son groupe familier. Charles Seignobos, Charles Handler, Paul Dupuis, Victor Bérard, Arthur Fontaine, le docteur J.P. Langlois. Et bientôt, on allait se mettre en route, on allait engager la campagne publique, campagne de presse, campagne parlementaire s'il en était besoin. Nul au Sénat n'inspirait plus de respect que Scherer-Kestner. Jaurès, rentré à la Chambre depuis 4 ans comme élu socialiste de Carmaux, régnait par son éloquence souveraine. Le dossier, tel qu'on le possédait, suffisait à toute démonstration. Au reste, on n'avait ni le temps ni le droit d'attendre. Car enfin, il n'y avait pas seulement le procès Dreyfus ou l'affaire Dreyfus. L'erreur judiciaire avait un corps. Là-bas, à des milliers de kilomètres, un innocent torturé succombait sous une accumulation presque inouïe de souffrances. Il fallait délivrer ce malheureux en même temps que venger la vérité. La vérité aurait pu attendre, à la rigueur, mais pas l'homme. Aussi, la résolution était-elle prise. Sitôt les vacances achevées, on réhabiliterait devant le pays le nom de l'innocent, et on lui livrerait celui du coupable.